foule pleine de plaies, pleine de bosses. C'est la terre, j'y habite, vous ne pouvez pas vous tromper.
Le goût du monde.
Vous vous laissez glisser le long du Groenland qui fait froid dans le dos. Attention, ça dérape.
Clémence de Navy.
Vous prenez à droite, par la mer du Nord, à gauche, vers la Manche. Et là, quand vous êtes là, demandez la maison, tout le monde nous connaît. Vous ne pouvez pas vous tromper, là. Elle a des yeux comme ceci.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. On est content parce qu'on a mis un petit peu de miel sur notre table pour inviter ce papillon à s'y poser, car il me fait un peu l'effet d'un papillon, notre invité, ou bien d'une abeille. Ah mais vous rigolez Bruno Verjus, et vous avez raison, et pourtant si, vous êtes cuisinier, autodidacte, chef du restaurant Table à Paris. Vous aimez les goûts, les couleurs, ce qui vibre et ce qui vit. Il aime tellement Bruno Verjus, les battements de la vie et du cœur qu'il fait de l'acte de nourrir un art, comme d'autres, mais lui nourrit aussi avec ses mots et les images. Tenez, le rouget farfouilleur, petit poisson délicat s'échappant dans les rochers de son enfance à l'île-Dieu. Bonjour Bruno Verjus.
Bonjour.
Alors comment est-ce qu'on le cuit? Comment est-ce qu'on le prépare et le cuisine, ce petit rouget farfouilleur?
Je crois d'abord il faut l'observer, le petit rouget, avant d'envisager même de le cuire ou de le déguster, parce que c'est un peu comme un chat, ça a les petites moustaches comme ça, et puis c'est curieux de tout. Et alors j'ai découvert il y a pas longtemps, c'était très très drôle, quand j'étais en Grèce là il y a quelques jours encore, qu'il y a une variété de rouget. Le rouget en grec c'est barbounia, et en fait une variété qui porte un autre nom que j'ai oublié, mais qui s'appelle tête de chat, parce qu'il a le nez un peu plus écrasé que les autres. Et ça m'a beaucoup amusé, parce que depuis l'enfant j'ai toujours trouvé que les petits rougets c'était comme des chats. Alors je les ai longtemps observés, je devenais moi-même rouget, parce qu'à force de les observer, d'être allongé dans l'eau, j'avais le dos qui brûlait au soleil. Et du coup, ils m'apprivoisaient un peu plus parce que je leur ressemblais, comme mes chats en Grèce qui m'apprivoisent avec le temps. Alors, j'aime bien l'idée de les travailler en grande friture. Vous savez, le rouget, c'est très bon. On a ces souvenirs du rouget de Méditerranée, en tout cas, qu'on peut manger, par exemple, à la Goulette, en Tunisie. On a ces rougets en grande friture. Il y a cette passion de la friture que j'aime beaucoup. Et puis, en Grèce aussi, on a l'habitude de les frire. Quand j'ai déjeuné il y a pas très longtemps chez une femme qui devait avoir peut-être 80 ans, qui était courbée en deux, comme ça, pliée en deux, et qui fait une cuisine absolument remarquable de douceur et d'efficacité, qui fait à la fois des tranches d'aubergines farinées, frites, mais sans aucun gras, et des rougets à l'identique. Alors que chez Table, j'aime les travailler comme ça, avec une farine de riz, un petit peu d'eau gazeuse, et je rajoute une réduction d'hibiscus. L'hibiscus, vous savez, c'est cette fleur magnifique.
Qui donne une couleur rouge.
Qu'on utilise beaucoup en boisson. En Égypte, c'est le carcadet. En Afrique, au Sénégal, c'est le bissop. Et il y a ce côté très... très acidulé, un peu comme un jus de cerise burla. Alors, j'en rajoute un peu, ça a deux mérites. Le premier, c'est évidemment à la friture, de conserver la couleur du rouget. Et la seconde, c'est d'amener une légère note acidulée et florale qui, encore une fois, va ouvrir le poisson vers d'autres horizons. Et ce qu'il faut comprendre dans ces types de fritures, c'est qu'en réalité, c'est une cuisson qui s'opère finalement à l'étouffée, c'est-à-dire presque à la vapeur, dans les propres sucs du poisson. Et quand elle est bien pratiquée, il n'y a aucun gras. Alors, c'est quelque chose d'absolument splendide. Et je trouve que de cette façon-là, on préserve à la fois le poisson dans ce qu'il a de beau, dans sa couleur, et aussi on rend grâce à la pratique de cuisson du rouget ancestral par ceux qui savent et qui se le transmettent de génération comme ça en génération au bord de la Méditerranée.
Alors vous riez quand j'ai dit de vous que vous êtes un papillon, mais enfin déjà on a pas mal voyagé en l'espace de quelques minutes grâce à ce rouget. Vous êtes cuisinier, homme de mer salée, d'ailleurs vous cuisinez à l'eau de mer, voix de radio. Auteur du champagne, de l'amour, 10 façons de le préparer, aux recettes pour ma femme et donc à l'art de nourrir, publié aujourd'hui chez Flammarion, enfin c'était au printemps que ce livre est sorti. L'art de nourrir, forcément on se pose la question, qui vous a nourri le premier et surtout quel est votre premier goût, Bruno Verjus?
Moi je crois que ce qui me nourrit, et je vais prendre soin de répondre à côté de votre question, évidemment.
Je suis un papillon,
donc je dois rester dans mon rôle. Ce qui me nourrit, c'est la culture. Je crois que la première chose qui me nourrit, ce sont les livres. Ce qui me nourrit aussi, parce que je suis très sensible aux images. Je suis quelqu'un qui se laisse assez impressionné par les images, dans le sens où elles me font rebondir vers d'autres narrations. C'est-à-dire que je suis là et je suis pas là, parce que finalement, j'aime ce que la culture offre en termes de distraction. Et distraction, il faut le comprendre, d'être distrait de la réalité pour aller dans des rebonds créatif ou dans d'autres manteau, univers.
De paysage et
oui,
tout
et qui est une façon finalement de revenir de façon un peu plus nourrie encore à ce qu'est la réalité et de la nourrir à son tour avec la connaissance qu'on a acquise. Alors je crois que ce qui m'a nourri c'est ça, parce que finalement quand je me souviens de ma petite enfance, je me souviens pas vraiment de goût, mais je suis un sensualiste. Ce qui m'a nourri quand j'étais petit, c'est finalement plus des sensations et notamment ces sensations de ces promenades très petits, parce que quand j'étais petit, à cette époque-là, c'est-à-dire c'était dans les années 70, on obligeait les enfants à aller faire la sieste. Alors on vous collait dans votre chambre comme ça et puis il fallait rester tranquille, ce qui était probablement une façon pour les parents de dire allez hop, un peu d'air pour nous. Alors moi je m'évadais évidemment de ma chambre et je partais le bord de la rivière. On habitait le bord du Renaison.
Pour situer juste un auditeur, Renaison, on est près
c'est
de Roanne.
À côté de Roanne, c'est à 12 km de Roanne.
Donc au sud de Lyon.
C'est dans les monts du Roannais. C'est un lieu qui est assez beau et assez naturel encore à cette époque-là, même si aujourd'hui le pauvre Renaison a été mis dans des tuyaux, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment une très belle rivière avec des écrevisses, des truites, etc. Et puis des vergers, et puis des vaches, et puis des champignons, et puis plein de choses. Et donc ces cheminements le bord du Renaison, comme ça, pendant les heures de sieste où je mettais échappé, puis après, plus tard, en étant un peu plus grande, de façon plus, je veux dire, plus affirmée, c'est souvenir du bout du pied qui va froisser les menthes, qui va dans les herbes comme ça, et c'est à la fois un peu impressionnant parce qu'on est le bord d'une rivière, on veut pas tomber, mais en même temps, on veut s'approcher parce qu'on veut observer, et puis il y a toutes ces odeurs qui vous envahissent, et donc c'est en ça qu'on comprend que la connaissance, c'est ce qui va vous nourrir le plus, parce qu'on a une soif de découverte quand on est petit, et après, très rapidement, on comprend que la connaissance, elle est dans les livre. Alors, il y avait les deux, c'est-à-dire qu'il y avait la partie « je m'échappe de la sieste et je vais vivre des expériences et des choses très sensuelles, et puis je reviens dans ma sieste et je prends un livre et je me cultive. » Donc c'était ça ma nourriture.
Est-ce que vous goûtiez ? Quel est votre rapport au goût ?
Non, j'écoutais très tard. J'ai été évidemment implémenté au goût parce qu'on était une famille très modeste, mais en même temps, on était nourri qu'avec des choses de qualité. C'est-à-dire qu'on avait un jardin, c'est-à-dire qu'on allait chercher le lait à la ferme dans une tinette à l'heure de la traite, le soir, vers 19h. Il y avait un moulin avec de la farine, où on allait chercher de la farine, que ma grande-tante avait une ferme vivrière, je l'adorais. On allait ramasser des plantes, on allait ramasser des œufs, donc on était nourri de qualité, je veux dire, une salade. Le midi, on allait la cueillir au jardin, on la lavait, on la mangeait, les tomates, c'était pareil, etc. Donc ça, c'était fantastique.
Donc vous avez grandi dans cette conscience-là.
J'ai grandi dans cette conscience, mais non, pas vraiment, parce que j'ai grandi nourri comme ça, physiquement, mais en même temps, c'était, je dirais, un quotidien qui était...
Normal.
Bon, qui était normal, je veux dire, c'était une façon de faire. C'est une époque où on mangeait à table avec ses parents, midi et soir. Je veux dire, on n'allait pas manger chacun dans son coin, dans la télé, où on parlait pas trop quand on était petit. On mangeait la cuisine familiale et c'était comme ça. Et puis tout ça, on l'oublie complètement. Et je l'ai complètement oublié. Et puis après, je suis parti... d'abord, j'étais à Lyon faire mes études de médecine. Après, je suis parti en Californie et à New York. Et puis je suis parti en Chine. Enfin, je me suis évadé de tout ça aussi, de cette campagne qui me pesait en même temps. Et puis, j'ai commencé à comprendre, à goûter. Quand j'ai rencontré le pâtissier Pierre Hermé, on s'est rencontrés comme ça par hasard, puis on est devenus les meilleurs amis du monde. Et j'étais fasciné parce qu'un jour, il était chez moi à l'Île-Dieu, et puis je le voyais faire des choses. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Et il me dit, mais j'écris les recettes de mon livre de pâtisserie. C'était son premier livre, je crois. Et je lui dis, mais comment tu peux écrire comme ça, Pierre ? Tu fais pas les gâteaux avant? Et il me dit ben non, voilà. Et puis il dit après on les fera pour vérifier, mais voilà quoi. Puis de toute façon c'est ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, pour faire des recettes, il faut les faire, puis après on écrit comment on les a fait, si c'est réussi. Enfin, pour moi, c'était inenvisageable. Et c'est là où j'ai compris avec lui qu'en fait, il fallait se forger une bibliothèque de goût. Alors, les goûts, c'est deux choses, hein. C'est le goût par la bouche, mais c'est aussi la rétro-olfaction, donc c'est aussi sentir, hein. Sentir, la rétro-olfaction et le goût par la bouche. Donc, c'est finalement trois choses. Et là, j'ai compris, et Pierre m'a expliqué, m'a dit, ben voilà, machin, etc. Et là, j'ai commencé à tout goûter, j'ai commencé à tout sentir, j'ai commencé à le faire, non pas de façon fortuite, parce que j'avais écrasé de l'amande du bout du pied quand j'étais petit, etc., etc., mais parce que j'ai voulu construire cette bibliothèque de goût en moi, cette palette, comprendre, tout goûter pour tout comprendre et savoir aussi comprendre la polysémie des goûts. Une framboise, il n'y a pas le goût de la framboise, il y a 1000 goûts de framboise en fonction de sa maturité, de sa variété, du lieu où elle
d'où
a
elle
poussé,
provient.
De la saison, etc., etc. Voilà.
La polysémie des goûts, c'est joli ça. Il s'écoute aussi les goûts.
Les goûts s'écoutent, bien sûr. Alors après, c'est là où on comprend comment on fait les recettes, parce que les goûts, on appelle d'autres, si vous voulez. Hier, par exemple, on me fait goûter un caviar pressé. J'ai fait un dîner, là, il n'y a pas longtemps, autour d'un caviar, et je goûte ça, et je dis, mais moi... Pour moi, c'est de la mûre, donc je vais le mettre avec de la mûre. Et j'ai pas besoin de le faire pour le goûter. Je l'ai déjà goûté simplement en l'évoquant. Je crois qu'à un moment, j'ai eu conscience de ça assez jeune, de cultiver mes goûts comme j'avais cultivé aussi mes mots en lisant, comme j'avais cultivé mes connaissances par mes différents apprentissages. Mais je pense que cuisiner, ça se pratique de mille façons. J'écoutais il y a pas longtemps Pierre Gagnaire, que j'apprécie infiniment, et il est de la Loire comme moi, en plus, on est pays. Et Pierre disait que lui, ses inspirations venaient justement des mots. C'est-à-dire quand les mots résonnaient bien entre eux, il savait que c'était bien, quoi. Et moi, je l'avais déjà remarqué, je l'avais écrit il y a très longtemps, sur Pierre, justement, en disant finalement, lui, ce qui l'intéresse, c'est un parolier de la cuisine. C'est-à-dire qu'en fait, il écrit une très belle chanson et il sait qu'après, ça va être formidable parce qu'il sait faire la mise en musique de ses mots pour que les mets soient délicieux. Et donc, je dirais que chacun a ses niveaux d'entrée différents. L'important, c'est qu'on n'oublie jamais que tout cela reste une nourriture et qu'elle n'existe que pour ceux qui la mangent. C'est comme quand on écrit. C'est-à-dire quand on écrit pour être lu, donc essayer d'être fluide, etc. Je voyais il n'y a pas très longtemps une remarque formidable de gens que je ne citerai pas, mais qui disaient, bon, grosso modo, tu veux écrire, c'est formidable. Mais voilà, il y a eu 2-3 génies dans le siècle de l'écriture. De toute façon, tu n'en feras pas partie. Donc, écris simple, avec une histoire, et ce sera déjà formidable. Et je crois que c'est un peu ça. Et nous, nourrir, c'est la même chose. Mmh. C'est pas prétendre un jour être le génie, être un Alain Chapelle, par exemple, mais c'est essayer de nourrir avec humanité, avec désir, avec amour, donner de l'amour, et puis avec une forme de grande sincérité. Si en plus, effectivement, on arrive à ce moment-là à apprivoiser un certain nombre de sensations, d'idées, de connaissances, de mariages, etc., pour que tout ça soit au service, finalement, des plats qu'on propose, ben là, c'est formidable.
En tout cas, je vous remercie parce que Pierre Gagnère, c'est dans une émission du Goût du Monde qu'il disait ça aussi,
ben oui.
Dans laquelle vous étiez.
C'est pour ça.
Je vous remercie de ce clin d'œil.
Et j'ai adoré ça.
Tout en couleurs, j'ai envie de dire, et les couleurs, Dieu sait si vous savez les manier.
Les couleurs, leur profondeur, le vert et ses nuances les plus denses m'inspirent. À lui seul, quelle variété, d'une huile de persil frit aux tonalités électriques, à celle printanière d'une jeune pousse de verveine. Puis viennent les rouges, l'ombre intense de l'hibiscus, ou le rouge vibrant d'une tomate mûre piégeant le soleil. Que dire des rouges plus orangés et mystiques, à l'égal d'un rayon de lumière frappant l'or d'un vitrail. Ah, et le rouge cinabre d'un petit rouget farfouilleur. Quant au brun, plus difficile à dompter, je m'y aventure. Des caramels ambrés aux teintes sombres d'un lièvre à la royale, à la sauce molle de Waraka, chocolaté, jusqu'au noir brut d'une cendre de poireau. Ma palette s'enrichit de touches qui illuminent les couleurs principales. Que j'aime les violets d'un petit chou-fleur graffiti, les jaunes d'or du safran, les bleus d'encre des fleurs de pois, les roses pâles d'un crémeux de homard. L'éventail du monde nous nourrit. La beauté aussi.
Que j'aime les couleurs de votre livre, Bruno Verjus. Quand vous entendez votre texte, ainsi lu par Nathalie Laporte, ça vous évoque quoi ?
C'est extrêmement touchant d'entendre son texte lu parce que, d'abord, c'est un honneur extraordinaire que d'entendre son texte dans la bouche de quelqu'un, qu'il ait l'envie de le lire, le désir de le lire, ce qu'elle fait en plus formidablement. Je pense qu'on goûte encore mieux ces mots, c'est-à-dire qu'on ne les reconnaît pas toujours, parce que, vous savez, quand on a écrit un livre, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, donc c'est déjà un peu loin de moi. Peut-être qu'aujourd'hui, je l'écrirais différemment, d'ailleurs, mais sans renier aucun des mots, évidemment, que vous trouverez dans le livre. Mais oui, ça prend une dimension presque de gourmandise, quoi. C'est bien parce que le texte devient extérieur à vous, et il vous revient comme ça, et on en voit... On en voit le poli, on en voit le façonnage. Ce que je trouve agréable, c'est qu'on n'a pas la construction, on n'a plus la technique, on a juste la beauté comme ça, la beauté du texte qui vient à vous et ça met en appétit, ça me donne envie de manger.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Flamenco Sketches de Miles Davis sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde avec Bruno Verjus, le cuisinier, un brin poète et philosophe généreux. Bruno Verjus, pour qui le verbe nourrir est vocation globetrotter, un grand curieux. Il donne à goûter le monde à table son restaurant à Paris. Miles Davis, c'est vous qui l'avez choisi, Bruno Verjus?
Oui, j'aurais...
Il est encore dedans. C'est vrai qu'on a du mal à le laisser filer.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ce rapport à la distraction. J'ai un rapport à la musique complexe, j'adore la musique, je suis extrêmement éclectique, c'est-à-dire j'écoute absolument tout, sans jugement, sans rien, j'ai du bonheur absolument avec tout, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Et un jour, il y a un chef d'orchestre, compositeur, qui vient me voir et qui me parle d'une de mes entrées en me disant « ça, c'est pour moi, c'était le premier mouvement du concerto untel, j'ai oublié de Ligeti. » Et alors, bon, je savais qui était Ligeti, et j'étais très surpris qu'on puisse faire une analogie entre ma cuisine et puis la musique. Et puis, quand on a eu toutes ces histoires de confinement, etc., à un moment, si vous vous souvenez, on s'est retrouvé à pouvoir être ouvert, mais à devoir fermer à 21h. C'était très compliqué. Donc, il fallait que tout le monde parte à 20h30. Et je me suis dit, on va faire à manger, mais on va faire du jazz. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une trame, et puis chacun de mon équipe de cuisine va improviser des choses, et puis on va l'envoyer comme ça à nos clients. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, et d'ailleurs je pense qu'on va beaucoup continuer comme ça. Et quand j'écoute Miles Davis, et notamment ce morceau particulièrement, je trouve qu'il y a toute ma cuisine qui est là, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement structuré, contrairement aux apparences, il y a une narration qui est là, il y a une mise en place, il y a des perspectives, il y a des horizons qui se dessinent, et en même temps, quand on l'écoute, on ne peut pas s'empêcher de s'échapper. C'est-à-dire que chacun s'évade dans des univers qui sont complètement personnels et différents, et je trouve que ça traduit exactement ce qui, à mon sens, est la belle cuisine. On propose une narration, on a une trame extrêmement présente, qui est évidemment celle du produit qu'on va travailler. Et puis, quand c'est réussi, chacun va se l'approprier, chacun va vivre, soit se ramener à des souvenirs personnels, à des expériences, à des goûts, à des valeurs, à avoir une émotion qui est de l'ordre des émotions qui vous étreignent sans que vous en rendiez compte, et donc qui vous projettent dans complètement autre chose, et qui sont celles aussi qui vont forger votre souvenir a posteriori, c'est-à-dire qui fait que vous allez vous souvenir toujours de ce plat, de ce goût. Et moi, on me dit souvent, ça, je l'ai mangé très souvent, mais... le homard, votre navet, votre tomate, etc. Finalement, je crois que c'était la première fois de ma vie que je la mangeais. Et là, quand on écoute Miles Davis, souvent, ce génie immense, à tous les coups, et même peut-être Flamenco Sketchy, je l'ai écouté peut-être 1000 fois, mais chaque fois, vous l'avez remarqué, je pars ailleurs dans autre chose. Et je me dis, mais c'est tellement proche de moi, et en même temps, c'est tellement lointain, mais ça rassemble autour de quelque chose qui est absolument beau.
Totalement beau. On se laisse embarquer.
C'est ça. Moi, j'essaie vraiment d'être un marchand de petites beautés à déguster.
C'est votre manière de nourrir ?
C'est mon art de nourrir, en tout cas, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait le restaurant table. C'était aussi une façon de planter des graines, de dire, voilà, au-delà de nourrir, j'essaie aussi de nourrir, évidemment, l'esprit, nourrir la conscience, mais sans être un prosélyte, sans être, je sais pas, du tout un militant. Moi, je suis quelqu'un qui, au contraire, essaie de modestement semer les petites graines. Et puis, voilà, c'est la vie. Certaines vont germer, grandir, fleurir, refaire des graines, etc. Et donc, notre métier, c'est ça. C'est faire comprendre que, bah, voilà, pour se sentir bien dans notre monde, il faut commencer par s'aimer soi-même pour être en mesure de le recevoir. Et puis, à s'aimer soi-même, on va comprendre qu'on va aimer les autres, qu'on va aimer le monde.
On peut être généreux.
Qu'on va aimer le monde dans lequel on vit, et donc c'est évidemment, la générosité fait partie de tout ça. Surtout une humanité simple, un rapport simple et élégant au monde, et qui devrait nous faire comprendre quand même que il faut arrêter de mal se nourrir, qu'il faut arrêter de creuser et de saloper notre planète, parce qu'on en est les premiers destructeurs et que pour ça on est des génies.
Pour détruire la planète, c'est évident.
Pour détruire la planète, absolument. Et moi, je l'ai remarqué, j'ai une image qui est assez amusante. Je viens de passer finalement presque 2 mois et demi en Grèce, en 2 séquences, à vivre nu avec des chats sauvages au bord de la mer. Et quand vous êtes nu avec des chats sauvages, ils vous reçoivent plutôt pas trop mal. C'est-à-dire qu'ils considèrent que vous n'êtes pas une espèce, évidemment, vous n'êtes pas un chat. Ils ont bien compris que les tailles n'étaient pas respectées, l'agilité non plus, malheureusement, que je ne sais pas grimper un mur de 2 mètres avec mes 4 pattes. Donc, je ne suis pas un chat. Mais en même temps, je une espèce, et comme je l'ai nourri, grosso modo, on peut cohabiter. En revanche, dès qu'on s'habille, qu'on met des chaussures, une chemise et un short de bain, eh bien, ils se remettent à 5 mètres et ils vous reconnaissent quasiment plus. Et je pense que ces chats, qui sont des chats très ancestraux, puisqu'ils sont sauvages, vraiment très, très archaïques, avec un cerveau reptilien, on n'a pas le temps, je pourrais vous faire une émission d'observation sur l'archaïsme du chat grec. Et donc, ils savent que l'homme est probablement vraiment un ennemi de là où ils vivent, quoi. Parce que dès qu'on est habillé comme un homme, civilisé, ils considèrent qu'on est un ennemi de leur planète et qu'on est un danger potentiel, bien sûr, et ils ont tellement raison.
Ouais. On va appeler la Grèce.
Allez,
nous avons un envoyé spécial en Grèce.
J'espère qu'il aura un chat sous la patte.
Allô, allô.
On a dit que vous étiez notre envoyé spécial en Grèce. Il s'avère que vous êtes un envoyé un peu particulier, envoyé spécial, puisque vous êtes un ami de Bruno Verjus, Alexandros Ralis.
Vous avez
l'épicerie à Paris qui s'appelle Profil Grec. Vous trouvez-vous en Grèce exactement et qu'est-ce que vous voyez autour de vous?
Qu'est-ce qu'on voit? On voit la mer à perte de vue. On est du côté de la mer Ionienne. On n'est pas loin du village de Kopanaki, qui est aux 30-40 km au nord de Kalamata. Et c'est là où on produit la feta, une feta qui est fabuleuse de M. Memos, que nous sommes allés visiter, qui nous a fait le plaisir de nous inviter au bord de la mer. On a mangé un danti qui a été grillé au charbon et qui était délicieux. On passe un très très joli moment.
Donc une belle dorade dont vous nous avez envoyé une photo qu'on a pu...
Oui, une plus grande dorade. Voilà, un danti avec des grandes dents.
Sinagrida.
Sinagriva. Hein? Même Bruno connaît mieux maintenant le nom des poissons que moi. Quoi.
On parlait de chat, figurez-vous, avant de vous appeler.
On parlait de chat.
Et Bruno Verjus nous faisait comprendre qu'il était une sorte de chat maintenant en Grèce, en tout cas accepté par les chats grecs.
Le roi des chats. Et qui entrera sûrement au paradis pour avoir sauvé toute une population à Ios Dimitrios, qui pleure son absence maintenant qu'on a fermé cette petite cabane du pêcheur. Il y avait la petite paille qui regardait au loin si Bruno était là. Il n'était plus et il y avait énormément de tristesse dans le regard.
Quel est le lien entre vous deux, entre Bruno Verjus ici dans un studio à Paris et vous près de Kalamata en Grèce?
C'est justement l'amour du produit et des personnes... ils la font, c'est-à-dire que tous les deux, on est des passeurs d'une certaine façon. Et moi, j'ai juste passé mes produits à Bruno, qui les a sublimés. Et Bruno, comme il a toujours cette idée d'aller toujours un petit peu plus loin, il est juste venu voir une première fois pour faire un grand, grand banquet qu'on fait chaque fin d'année pour tous nos producteurs où on les remercie. Bruno était venu une première fois, a vu cette ambiance à Kalamata qui est quand même très spéciale, avec plein de personnes qui produisent, avec des gens extrêmement intéressants, touchants. Et du coup, peu à peu, il est revenu un été, puis un printemps, puis un hiver, puis aujourd'hui.
Puis il s'est déshabillé, s'est transformé en chat.
Et il s'est transformé en chat. Et la Grèce est une espèce d'Ithaque, je pense, pour tous les gens amoureux de liberté. Quand il s'est enfui à l'époque du Covid, il a eu cette idée géniale justement de se dire quel est l'endroit où je pourrais me sentir le mieux en étant seul au monde et pouvoir réfléchir, pouvoir avoir ce temps de pause. Ben c'est la Grèce quelque part, c'est la Grèce, c'est le pays de la contemplation, c'est le pays de l'onirisme, c'est le pays du rêve. Et il y a quelque chose, je pense, qui touche les hommes qui ont cette faculté à penser profondément les choses. Quoi.
Alors c'est un pays de la Méditerranée. Voilà. Quand vous nous avez parlé de votre feta vu ce matin, nous allons devoir l'imaginer dans sa consistance, dans son goût, dans sa structure.
Pour l'imaginer, vous voyez, c'est déjà il faut oublier tout ce que vous avez pu goûter, qui sont pleines de sel, on dirait de la craie, enfin, qui sont des choses complètement horribles, fabriquées de manière industrielle. Là, on parle d'un fromage qui est authentique, c'est-à-dire qui est travaillé avec des laits de bergers qui sont autour de la région de Kopadaki, qui est une région qui est montagneuse, où ça monte à 1000-1500 mètres au-dessus, avec des gens qui ont justement des élevages, des troupeaux. Monsieur Memos, en fait, sélectionne les laits de brebis et de chèvres, les travaille, et on va avoir une feta qui, de janvier jusqu'au mois de juin, va évoluer. C'est-à-dire, en janvier, elle va être très beurrée, presque sur un chèvre frais, qui va être très agréable. Et plus ça va aller, plus elle sera sèche et puissante. Donc, c'est-à-dire que c'est un fromage qui est, en plus, vivant. C'est-à-dire qu'il peut avoir des goûts très différents selon la date de production, et qui est un fromage de condiments. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très particulier sur une table grecque, quoi.
Et on va le manger, par exemple, avec une huile, avec des légumes, de quelle manière ?
Ce qui est génial, c'est qu'en Grèce, il va être utilisé, on va être mis au milieu de la table, il va être utilisé comme condiment, donc sur les salades, et évidemment sur la fameuse salade grecque, mais aussi, il va travailler avec des légumineuses, avec des pois, avec des gros haricots. Et après, en fait, en France, ce qui est génial, c'est qu'il y a un imaginaire après qui s'empare. C'est-à-dire qu'en France, il y a des gens qui vont le travailler, qui vont le congeler, qui vont le râper sur des petits pois. Bruno, il a mille et une recettes, je pense, autour de la feta et d'idées. C'est-à-dire que c'est un fromage qui permet, en fait, plein d'utilisations qui peuvent être très différentes d'ici en Grèce, où c'est quelque chose de très pur, et en France, où il est complètement réinventé. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, avec tous les produits qu'on ramène. C'est aussi l'idée d'avoir toujours une réinvention par des personnes qui ont un regard nouveau sur des produits qui sont très basiques en Grèce, mais qui peuvent être absolument sublimés quand ils sont faits de manière artisanale.
Que le produit porte en lui la notion de voyage, justement, qu'il vient d'accomplir. Bruno Verjus, cette feta, qui, je crois, est un peu souple en ce moment, ou pas du tout, je me trompe.
Alors, on a inventé une petite escroquerie avec mon camarade, je pense qu'on peut vous la raconter, mais on a goûté un jour, pour l'anniversaire d'un critique gastronomique que j'aime beaucoup, grec, qui s'appelle Fostis Valatos, une feta, je ne savais pas d'ailleurs c'était une feta, mais un fromage très tendre, très crémeux, très délicieux, un peu dans l'esprit, bon, c'était une marque Philadelphia, et j'avais trouvé ça dingue. Et un jour, on l'a retrouvé par hasard, tous les deux, avec Alex, et je lui dis, mais ça, mon gars, c'est le Philadelphios, c'est le Philadelphia grec. Alors, on s'est renseigné, on a regardé, on a parlé, justement, Alex a parlé avec Monsieur Memos, et on est en pleine fabrication de Philadelphios, donc qui va être une autre façon d'envisager la feta, c'est-à-dire de façon très crémeuse, très, très sensuelle, très belle, et on pourra faire, j'imagine, plein de choses. Et c'est vrai que ces fromages, ben, ouvrent des horizons intéressants. C'est souvent au mois de mai, il fait très très beau. Et donc, on a envie de fraîcheur, on a envie de tomates. Il n'y en a pas encore, c'est pas la saison. En revanche, on a des fraises qui souvent ont pas un goût extraordinaire. Et donc, j'aime beaucoup travailler des fraises comme des tomates et utiliser justement la feta comme un sel sur cette salade-là, en la mariant tout de même pour justement aller conforter les goûts. Et ça, c'est la réflexion par rapport aux goûts et par rapport aux associations, notamment de qu'est-ce qui pousse les goûts de ceci ou de cela. Et c'est vrai que si on fait, je vous fais une petite recette rapide, une belle huile de Kalamata, de mon ami de profil grec, et de cette belle région du Magne, parce qu'on n'a pas parlé le Magne, qui est quand même la région la plus troublante au monde, associé avec un tout petit peu de fleurs d'oranger, puisque c'est la même saison, en mai-juin on a des fleurs d'oranger, et là l'eau de fleurs d'oranger est précurseur de l'arôme de la fraise, donc ça va aller amplifier l'aromatique des fraises, la feta, un tout petit peu de sel, cette huile d'olive, on a la plus belle salade du monde, et j'aime bien aussi quand on a cette ambiguïté qui casse un peu des fausses normes qui ont été inventées pour rien à mon sens, c'est-à-dire d'avoir finalement décidé que les desserts ça passait à la fin d'un repas, alors que ça a toujours été avant le 19e siècle à peu près où on voulait, et en tout cas dans la culture française, puisque en Chine le sucré, le salé, tout ça n'est pas hiérarchique. hiérarchisée, il n'y a pas de différence. Et donc finalement, j'aime bien avoir une salade comme ça qui peut aller emprunter un peu le côté d'un dessert un peu audacieux parce qu'on va trouver du sel et en même temps prétendre être une entrée parce que finalement c'est une salade de tomates sans tomates à l'époque où la tomate n'existait pas. Et là aussi, on rend hommage finalement à la Venise de la grande époque dans cet endroit, ce village magnifique de Métonie avec ce château vénitien qui avait été construit par les Vénitiens pour faire le commerce de l'huile d'olive justement de cette région. La tomate, évidemment, n'était pas encore arrivée sur notre continent, donc on utilisait des fraises comme des tomates pour faire des spaghettis, des pâtes et probablement des salades. Donc vous voyez, on est finalement dans cette circulation et cohérence comme ça de ça. Et la cuisine, c'est ça. La cuisine, c'est la circularité des connaissances. Sans la circularité des connaissances, il n'y a pas la circularité des produits. Et donc, on n'aurait pas une palette aussi riche pour se nourrir. Et ça, c'est le plus bel exemple, effectivement, des fraternités exemplaires qu'on peut avoir avec d'autres mariages, peuples, d'autres cultures, etc., et qui sont magnifiques. C'est-à-dire que on sent qu'on est tous issus d'un grand tronc commun, et finalement, on doit le garder. C'est la même chose pour les recettes, c'est-à-dire on est là pour les partager. C'est ce que disait Alexandre tout à l'heure avec beaucoup d'intelligence. On est les passeurs de tout ça, et c'est en ça que c'est évidemment formidable.
Alexandre, je vous remercie beaucoup.
Une petite dernière anecdote, c'était maintenant que Bruno a laissé son nom à une salade avec du melon et des algues qu'on appelle la salade Brunos, du coup, ou avec un melon qui est coupé, avec un peu de sel du Magne et quelques algues, on fait une salade extraordinaire aussi. Donc Bruno a laissé aussi, comme les Vénitiens, sa trace maintenant sur la côte ionienne de la Messénie.
Et rendons hommage quand même au plus grand producteur de melon que j'ai jamais rencontré, Monsieur Gonis, hein, extraordinaire.
Ah oui. Hein. Tu sais que ça y est, on va réussir à enfin avoir ces melons. Ça y est, on va pouvoir enfin travailler. Quoi.
Et on va les trouver chez table.
On va voir les melons, on va pouvoir découvrir tout ça. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous, Alexandre.
On retourne travailler, nous, un petit peu. Plein de plaisir à vous, parce que sans plaisir, pas de travail. Voilà.
Absolument.
Le goût du monde. Clémence de Navi. Almost in everything, everything. So spiritual. Mini cado, mini cado. Say you got one, me need one too. All up for me, color biko. Anointino, anointino. Valentino, Valentino. She called me for my telephone. Waiting she want, waiting she want. All up for me, color biko. Say honey. Oh yeah, don't know, yeah, don't know the dolly. Oh mommy. Oh yeah, don't know, yeah, don't know with the stunting. Oh honey. Got one, we need one, two. All up for me, color be coco. Anointino, anointino. Valentino, Valentino. She called me for my telephone. What did she want, what did she want? All up for me, color be coco. Oh baby, call me a leader. Anytime you want, make a deliver. Whoa. We did do some things, we didn't do with no money. You no go get from nobody. Oh baby, Delilah, oh baby, Delilah. So big is something, come make a refine up. Oh baby Delilah, oh baby Delilah. Oh, so big is something, on the way I go find up. Say honey. Blow You Away de Blue La Beats du Ghana sur la playlist de RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde. Et oui, nous avons quitté la Grèce à l'instant. Nous sommes avec le cuisinier au look sapeur congolais. Je trouve, pantalon écossais, gabardine, petit sac rayé, écossais également, sapeur.
C'est vrai que j'ai un petit côté sapeur.
Ah ouais, totalement.
Quand j'étais bien plus jeune, j'avais une grande passion pour les sapeurs qui m'amusaient beaucoup. Et alors, ils se retrouvaient dans plein d'endroits dans Paris. J'allais les voir. J'étais extrêmement. Je sais pas, il me plaisait, je l'ai trouvé beau.
Stylistiquement très...
Ouais, puis je l'ai trouvé libre surtout, et on parlait de la Grèce. Cette région qui me fascine, c'est le Magne. Il ne faut pas oublier que la devise du Magne, c'est la liberté ou mourir.
Alors quand vous dites le Magne, situez-nous juste sur la carte.
Le Magne, c'est une région qui s'étend finalement de Kalamata, qui part sur la petite péninsule au sud en direction d'Aéropolis. Mm-hmm. Et c'est une région extrêmement montagneuse qui tombe abruptement dans la mer. C'est la seule région qui n'a jamais réussi à être conquise par les Turcs, par les Ottomans. pour deux raisons. D'abord parce qu'elle était très difficile d'accès, aussi parce qu'elle était probablement très pauvre. Mais en tout cas, ça a gardé cette forme comme ça de rapport au monde extrêmement libre, extrêmement incroyable. Et c'est de là qu'est partie la révolution grecque, évidemment, comme par hasard. Et donc, je suis fasciné aussi par cette dimension de liberté humaine. Voilà, qui moi j'ai un côté très résistant, qui nous est ôté en permanence, y compris dans notre façon de penser ou de s'exprimer. Et j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ça, et on revient aux sapeurs, et c'est probablement aussi pour ça que j'ai beaucoup d'admiration sur cette façon d'approcher le monde sans a priori, c'est-à-dire en considérant que la beauté, elle pouvait être dans cette sape, dans cette façon d'être, etc. Peu importe le budget, c'était pas tellement le débat, puisque les marques n'avaient pas encore cité vraiment, même si elles le commençaient. Mais en tout cas, c'était un rapport au monde libre et en disant, ben voilà, on aime la beauté, même si elle peut être totalement exubérante. Et donc voilà, et j'aimais ça.
C'est aussi des codes qui pourraient se prêter à la cuisine également. On peut avoir des produits extrêmement luxueux, extrêmement chers, et cependant, on peut avoir une cuisine délicieuse, sans qu'elle soit chère, une cuisine gratuite et libre également. Je vous propose, Bruno Verjus, de vous emmener dehors.
Emmenez-moi.
Je vous emmène à la cueillette d'herbes sauvages.
Là, c'est un grand arbre. Combien il fait là? 8-10 mètres, hein, à l'aise. Il donne des fleurs en grappes. Il a des feuilles qui sont bien divisées en petites folioles. Faut faire attention parce qu'il y en a un qui lui ressemble. Il a des feuilles en forme de trèfle et des fleurs jaunes. Lui, il est mortel. Mais on peut pas confondre hein, quand on se souvient qu'il a des fleurs blanches. Et c'est délicieux. Là, ça commence à s'éclore. Puis ça sent bon. Partout où les civilisations sont restées traditionnelles, même les civilisations agricoles, la cueillette fait partie de la vie quotidienne, c'est normal. Hein. C'est vraiment nous, les Occidentaux, qui avons décidé de ne plus ramasser de plantes sauvages parce que c'était un truc pour les paysans. Les riches, ils voulaient de la viande, ils voulaient des produits raffinés, ils voulaient des fruits et des légumes cultivés. Ça donnait l'impression d'être riche, donc c'était un symbole de statut supérieur. Mais c'est vraiment du virtuel, c'est vraiment de la conception du monde. C'est ça qui m'intéressait, c'est d'aller percevoir ce que les plantes peuvent nous expliquer sur nous-mêmes et sur notre façon de vivre. Là, on a de la viornouillée. Là, pour le moment, c'est joli comme ça. Après, ça va donner des petits fruits rouges. Quand on les fait cuire, je fais des chutneys avec ça. Il y a certaines plantes qu'on déguste telles quelles, là, sans problème. Bah, la berce, là, on en trouve partout de la berce. On commence par sentir. Ça sent la mandarine et la noix de coco. C'est fabuleux. On pèle juste le truc, un petit peu comme ça, et on déguste. Waouh, c'est génial.
Vous l'avez reconnu, François Couplan, l'ethnobotaniste, qui utilise la berce dont il vient de parler, et vous aussi, vous avez de la berce à votre carte.
Là, c'est la pleine saison, la berce. On a la berce qui a commencé à faire les graines, etc. Je suis très heureux d'écouter François, parce que François m'a beaucoup appris, justement. On s'est rencontrés il y a très 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 longtemps, et j'ai été assez fasciné par cet homme, qui a une culture, évidemment, qui est un puits sans fond. Donc j'ai acheté tous ses livres, parce qu'il a publié énormément de livres. Et voilà, et donc c'est oui, c'est très touchant. Oui, je serais même un petit peu plus politique que lui. Je crois qu'à un moment, il y a une véritable volonté, commerciale, mercantile, de faire oublier qu'on peut se nourrir gratuitement en ramassant des choses. Et en même temps, c'est aussi une façon de, et c'est aussi pour ça que je résiste beaucoup, de domination, une forme d'un impérialisme sur les gens, sur tout le monde, parce que pour cueillir, ça nécessite de se cultiver. C'est drôle d'ailleurs parce que finalement, ne pas se cultiver ne nécessite pas, mais fait qu'on peut vous vendre des produits cultivés, mais être cultivé vous permet d'aller ramasser les produits pas cultivés parce que la culture est en vous. Et ça, c'est assez intéressant de faire ce parallèle-là. Et effectivement, on peut se nourrir bien gratuitement avec des choses formidables. Après, on a aussi évidemment, par rapport aux produits, c'est vrai qu'à un moment, il y avait une vraie hiérarchie dans les produits. Grosso modo, les produits nobles, c'est toujours la même histoire, hein. C'est-à-dire les produits les plus nobles, c'est ceux qui sont au-dessus de la terre, et les produits pas nobles, c'est ceux qui sont dans la terre. Voilà, vous savez que la nourriture des Grecs et des Romains, essentiellement, c'était l'ail et l'oignon, en tout cas des gens pauvres, mais c'est des produits dans la terre. Et puis aujourd'hui, on a, grâce à des chefs comme Alain Passard, il a montré que cette hiérarchie-là n'existait pas, et que son gratin d'oignon, par exemple, est une merveille de haute gastronomie, que moi j'appelle plus aujourd'hui de la belle cuisine, de la même façon que sa betterave en croûte de sel devient aussi absolument un chef-d'œuvre qui va aller égaler, je veux dire, les produits les plus chics et les plus onéreux qu'on peut trouver habituellement à la table de restaurants triplement étoilés. Alors ça, c'est formidable, c'est de montrer effectivement que toutes ces hiérarchies sont finalement des inventions, des constructions intellectuelles qui servent souvent des intérêts qui sont pas extrêmement glorieux. Et donc chaque fois qu'on peut décloisonnés par la rencontre avec des personnes qui ont le talent d'être les passeurs d'idées et des passeurs de choses à manger, ou quand on peut évidemment entendre François Coupland le lire ou participer à certains de ses aventures comme ça botaniques, parce que ces plantes-là, elles sont absolument partout, il y en a même dans Paris, eh bien on gagne du temps parce que justement on se libère, on retrouve justement la liberté. Et là, on n'est pas obligé de mourir, justement, parce qu'on a la connaissance et qu'on sait ce qu'on va manger.
C'est ce que vous faites chez Table, chez vous, dans votre restaurant.
Oui, c'est ce que
cette ouverture, ce décloisonnement.
Oui, enfin, bien plus modestement, parce que moi, j'ai pas le talent d'Alain Passard et j'ai pas la connaissance de François Coupland. Mais j'essaie à mon niveau d'être le passeur d'idées et encore une fois, de façon extrêmement humble, extrêmement simple, et sans jamais oublier qu'une assiette, elle est là pour réjouir celui qui va la manger parce qu'elle n'existe que pour lui.
Dans votre livre aussi, cette notion aux températures et aux cuissons. Et à cette notion qui est aussi, en termes de culture, cette appréhension du chaud, du froid, de comment est-ce que ce doit être cuit, peut-on manger un crustacé cru, juste cet équilibre des choses justement entre le chaud et le froid.
Bien sûr, vous savez, la belle cuisine, c'est une succession de virtuosité. J'explique ça à mon équipe, c'est courir à pied à la vitesse là, d'un sprinter sur la crête d'une montagne. Et c'est ça, la très très belle cuisine. Et donc, c'est d'être capable d'emmener les gens très très loin, et parce qu'on est là, et qu'en même temps, on va leur tenir la main pour les conduire sans les mettre dans des options qui sont des dilemmes, ou qui les posent devant une difficulté, ou qui soient juste un espèce de d'esbrouf, comme ça, pour faire le malin.
En liberté.
Et qui finalement met mal à l'aise. L'idée, justement, c'est d'amener à décloisonner comme ça. Et peut-être, par mes études de médecine, par ma confrontation à mes voyages, des cultures extrêmement différentes dans le monde entier, à un moment, je me suis dit, mais il faut arriver pour bien comprendre un produit. Alors, il faut comprendre que je cultive des obsessions pour certains produits de façon successive, mais ceci bien avant que je n'ai même envisagé de faire la cuisine dans un restaurant. Et donc, par exemple, le homard, je trouvais que c'était fantastique, mais qu'en même temps, c'était jamais bon. C'est-à-dire, quand on va manger des homards, souvent le meilleur, c'est de la mayonnaise. Quand on aime le gras, si on a un homard frite, on est content avec les frites et la mayo. Mais le homard, c'est une espèce de truc caoutchouteux qui, en revanche, justifie une addition un peu salée, comme la mer d'où il vient. Alors bon, c'est pas toujours une expérience extraordinaire. Je me dis, et pourtant, c'est un personnage, le homard, qui a une réputation absolument invraisemblable, mais qui n'arrive pas à la cheville de la langoustine, qui peut, elle, s'envoler dans des élégances incroyables bien plus facilement. Et donc, je me suis dit, mais le homard, pour qu'il soit formidable, il faut le manger cru. Mais si on le mange cru, évidemment, on va penser qu'on est dans un restaurant japonais, on mange un sashimi. Honnêtement, un homard cru, c'est les vols 10, quoi. Hein. C'est pas un truc qu'on peut manger comme ça en se disant, waouh, c'est sublime, quoi. Non, c'est super bizarre. Bien. Et je me suis dit, mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à tromper le cerveau. C'est-à-dire que on puisse pas dire, ah ouais, c'est cru, qu'on le mange, et en se disant oh, « mais c'est fantastique la chair du homard et à aucun moment on se dit que c'est cru. Pourquoi ? Parce qu'on va le faire chaud, mais pas chaud. On va le faire à la température de la bouche, à la température du palais, à 37 degrés. Donc en fait, on est dans une forme d'homéothermie absolue, donc on n'est ni chaud ni froid, on est bien, on est à notre température à nous, notre température corporelle interne, et en même temps, on va avoir un petit beurre malin qui, lui, va avoir capter, enfleurer les arômes d'une carapace de homard grillé et qui donc va dire au cerveau...
C'est chaud.
Non, c'est cuit parce que ça a le goût de grillé, c'est grillé. Tu vois, donc on va griller le cerveau en quelque sorte de façon à laisser le corps s'exprimer, le corps du homard s'exprimer dans votre palais. Et là, on arrive à quelque chose qui est assez sublime parce que je trouve qu'on a facetté le homard dans tout ce qu'il a de plus intéressant. Et donc chez moi, c'est vrai que après, mais ça c'est quand j'ai écrit le livre, je m'en suis rendu compte en disant « Ah ouais, mais ton foie gras, c'est un mi-cru, mi-cuit aussi. Ah oui, mais ton tes encornés, c'est mi-cru, mi-cuit, etc. » Et donc on classifie les choses. Et donc oui, j'aime bien jouer avec ça. Mais encore une fois, c'est pas par rapport à une petite facétie ou un tour de prestigitation, mais c'est vraiment au service du produit tel que j'estime le goûter de façon la plus merveilleuse.
C'est une approche holistique aussi.
C'est une approche assez holistique, absolument. Ça, c'est mon rapport à la Chine. C'est considérer que tout appartient à tout et tout fonctionne ensemble. Et c'est surtout d'avoir ce rapport sur nous sommes des énergies en vibration et ce que l'on mange, ce sont des énergies en vibration. L'idée, c'est évidemment si on veut créer cette osmose parfaite entre ce que l'on mange et ce que l'on est, eh bien, c'est de ne pas les altérer et de les amener au meilleur de leurs vibrations à l'instant où on va les manger.
Je vous demande de partager avec nous un ingrédient et un ustensile.
Ah oui.
En sachant, et je préciserai que pour tout lecteur de votre livre, il aura aussi conscience et des producteurs avec lesquels vous travaillez, parce que vous mettez en avant et les hommes et les femmes qui font et qui participent à la confection de vos produits, qui les élèvent, qui les nourrissent. Et également des recettes.
Les recettes, elles appartiennent à tout le monde. On est des passeurs. Donc je crois que mes recettes, elles existent parce que d'autres ont existé avant. D'autres chefs ont apporté leur imaginaire, leur connaissance, leur science. Aussi, au-delà des chefs, je dirais que tous les cuisiniers et les cuisinières du monde, et notamment dans les familles, ont amené des connaissances et des successions de connaissances qui nous intéressent, parce que c'est vrai que souvent quand on allait à l'étranger, j'ai un plaisir immense d'aller manger chez telle dame qui sait faire ça formidablement, parce que ça suscite en moi des échos, et puis historiquement ça m'intéresse, et on y comprend tellement plus de choses finalement. Alors voilà, c'est surtout ça. Mais vous vouliez que je vous parle d'un produit, j'ai envie de vous parler de quelque chose qu'on ne mange pas, mais quelque chose qui, pour moi, est vraiment le symbole de mes envolées, de mes promenades, et qui devrait finalement conduire la main et l'esprit de tous ceux qui font la cuisine. Alors, je vais vous laisser le dire, je vais vous le glisser, c'est un petit cheval de mer.
Un hippocampe.
Un hippocampe. Alors voilà, moi, je vais vous amener un hippocampe aujourd'hui. Vous êtes bien surprise, hein. Alors, on va pas le manger, hein, je vous rassure, je suis pas sûr que ça se mange, je vois pas beaucoup l'intérêt, de toute façon, il n'y en a presque plus. Mais l'hippocampe, c'est ça. Moi, quand je vois un hippocampe, je suis ému parce qu'il y a cette forme d'incongruité et en même temps de richesse du milieu animal et végétal aussi. Enfin, c'est pas, bien sûr, c'est pas un végétal, l'hippocampe, on est bien d'accord. Mais je veux dire qu'on a des surprises comme ça. On a des choses qui sont des formes de chimères. Et on se dit, bah oui, si, ça existe en vrai. Et moi, quand je vois un hippocampe, moi, je monte sur son dos, évidemment, et puis on part dans des grandes chevauchées au milieu des algues et au milieu de la mer, et on découvre des territoires. Donc, c'est vraiment, c'est mon cheval pour aller découvrir l'imaginaire, l'hippocampe. Et je vais partout avec mon hippocampe. Et en même temps, l'hippocampe, c'est aussi, malheureusement, le fusible de la mer, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Moi, quand j'étais petit, on allait pêcher la crevette du bout de la trouille. C'est le nom de l'épuisette en Vendéen, cette épuisette ronde, hein. C'est pas un avenot, hein. C'est une épuisette ronde. On allait fouiller le dessous des Goémons, comme ça, dans les passes, au port des Corbeaux, à l'Île-Dieu, avec mon père, et on ramassait des bouquets. Lui avait les gros bouquets, etc., et moi, j'avais de temps en temps des araignées qui me faisaient un peu peur, parce que ça pince très fort, et quand on est petit, on n'aime pas trop ça, et puis surtout, ça ressent, on ne sait pas ce que c'est un caillou, c'est une mousse, etc. Et puis, quelquefois, on avait un hippocampe dans l'épuisette. Aujourd'hui, je vous me défie de mettre un hippocampe dans votre épuisette, il n'y en a plus. Et ça, c'est un drame, parce que c'est véritablement le fusible de la mer, c'est-à-dire, moi, je souhaite qu'on ait des hippocampes partout dans la mer, parce que ça veut dire qu'on aura arrêté de la saloper, de la labourer, etc., pour fabriquer des saloperies qui servent à rien, une espèce de protéines de poissons triturés inutiles, qu'on pourrait remplacer par plein de végétaux. Et j'espère qu'on va le faire d'ailleurs. Et donc voilà, donc l'hippocampe, bah oui, c'est mon chemin initiatique vers l'imaginaire. C'est mon LSD naturel à moi.
Le goût du monde se referme. Merci beaucoup Bruno Vergus. Merci de ce partage et de vos mots.
Merci.
Table est située
beaucoup
dans le 12e arrondissement, oui, de Paris, aux 3 rue de Prague. L'art de nourrir est publié chez Flammarion. Table à goûter dans quelques jours. Et vous, quel écho trouvez-vous chez vous, aux mots et au goût? Comment nourrissez-vous? Racontez-nous sur les réseaux sociaux du goût du monde, sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci à Cécile Bonissi qui a réalisé et mis en onde ce goût du monde. Merci à elle, merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission avec votre plateforme de podcast préférée, que l'on puisse rester près de vous et alimenter votre curiosité et votre gourmandise. Je vous dis à samedi prochain.
Elle est ma maison, mon logis, et de toute façon, quand vous aurez vu son sourire, vous ne pourrez pas vous tromper, parce que c'est là.
Le débat africain.